France Musique.
Bon week-end, mon petit Nicolas, et à lundi.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous les auditeurs de Fabrication Maison qui ont choisi de passer un moment avec nous dans les coulisses de la musique ici à la Maison de la Radio. Et vous avez bien fait. Dans le portrait ce matin, vous allez retrouver le pianiste Philippe Cassard, dont certaines des émissions sortent au disque. Dans son reportage, Jérôme Sandelaars nous fera vivre un moment avec la maîtrise de Radio France. Marie Fauché, quant à elle, dans sa chronique de la Maison Ronde, essaiera d'avoir le don d'ubiquité. Les archives de Jean-Yves Pat seront festives une fois de plus. Et après l'un de vos souvenirs musicaux, dans Parlez-moi de musique, Sophie Janin évoquera un autre compositeur qu'elle aime faire chanter. Enfin, façon de parler bien sûr. Vous nous suivez ?
France Musique.
Et voici maintenant le portrait de Fabrication Maison. Et pour commencer, une petite devinette facile. Si vous reconnaissez le générique, vous saurez qui est mon invité. Ça n'allait jamais jusque-là, Philippe Cassard.
Ah oui, en fait, c'est déjà un peu long pour un générique.
Puis alors, en plus, il y avait un petit titre dessus.
Note du traducteur.
Oh, mais qu'il fait ça bien. Il voilà. Faut dire que vous l'avez fait longtemps,
432
Philippe.
432 fois.
Et justement, je vous reçois avec plaisir ce matin, Philippe, un petit peu tôt pour vous, puisque normalement, vous arrivez dans 1h30.
Oui, mais je suis déjà au boulot. À l'heure où vous faites Fabrication Maison, je suis dans le bureau, là, au 7e, pour préparer l'émission qui va suivre.
Exactement. Et donc, ce qui motive un peu votre venue ce matin à ce micro, c'est la publication du 2e tome des Notes du Traducteur. Le premier concernait Schubert. Et là, vous avez rassemblé une série d'émissions sur Debussy.
Voilà, avec Marie Groux, qui a été ma chargée de réalisation pendant 6 des 10 ans, après Céline Parfenoff, on a rassemblé à peu près 9-10 émissions sur les 35 ou 40 que j'ai consacrées à Debussy. Alors on les a reformatées pour le CD, c'est important, l'écoute à la radio n'est pas la même
chose.
Voilà. On a lissé, on a enlevé des E, on a enlevé des redites, on a essayé de concentrer les choses et... toujours avec beaucoup de musique, et puis on a gardé évidemment l'essentiel des commentaires, et l'idée c'est de brosser un portrait de Debussy qui embrasserait les 35 ans de sa création, c'est-à-dire à la fois les œuvres de jeunesse, et puis quelques œuvres très identifiées, les Children's Corner, les Reflets dans l'eau, enfin voilà, quelques préludes, quelques études, on parle des œuvres d'orchestre aussi, des mélodies... On a un ensemble qui se tient. Alors, on pourra toujours dire, ah ben oui, mais il n'y a pas tel prélude, il n'y a pas telle étude.
Il y aura toujours des critiques, vous le savez.
Voilà. Oui.
Il manque toujours. Alors Philippe, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce disque, outre la possibilité de réécouter ces émissions merveilleuses, c'est aussi la façon dont vous entretenez votre rapport à la radio. Vous citez scrupuleusement tous les gens avec lesquels vous avez travaillé ici à la radio pour enregistrer ces émissions, les préparer, les fabriquer. Ça m'a beaucoup plu parce que quand je vous ai proposé ce portrait, vous m'avez dit, écoutez, on va faire un portrait autour de mon goût pour la radio.
Ah oui, mais la radio, on s'y sent tellement bien à France Musique. Enfin, c'est une radio où je travaille effectivement régulièrement depuis maintenant bientôt 11 ans. Mais avant, je venais en tant que musicien répondre aux interviews de Thierry Beauvert, qui m'a d'ailleurs installé à Note du Traducteur en septembre 2005. Oui. Et puis, il y a eu enfin tant d'autres. Hein. Bouteiller aussi, l'époque Bouteiller. Donc, en tant que musicien, je venais. J'ai fait quelques émissions chez Alain Paris, au temps du Matin des Musiciens, pendant l'été, des programmes d'été. Donc, la maison de la radio, c'est vraiment un repère pour moi. C'est quelque chose d'essentiel.
Et puis, vous êtes venu y jouer avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'était en 2010. Philippe Cassard, c'est vous qui êtes donc au piano dans ce concerto jeune homme, le début de Mozart, Köchel 271, avec l'Orchestre Philharmonique et à la baguette.
C'était Sir Neville Marriner, wow. 86 ans à l'époque, il en a 91.
Et ça conserve la musique.
Oh, mais
continuez.
C'est fringant, une énergie, une gentillesse, une disponibilité. Il a dirigé toutes les répétitions debout. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie.
Ah oui.
Un monsieur de 86 ans, aucune répétition assis. Il était debout tout le temps.
Et belle votre interprétation là, hein, vous en êtes content je crois.
J'avais dû avoir, je sais pas, manger un peu de lion là juste avant.
Alors donc on évoquait la radio parce que Philippe, je crois que la radio a compté beaucoup finalement dans votre vie. Est-ce que la musique que vous avez entendue à la radio elle peut avoir déclenché la vocation ou c'est venu ailleurs ?
Non, c'est venu après, mais mes parents étaient radio. On a eu la télé très tard à la maison. Mmh. Je devais avoir 13 ou 14 ans quand mes parents achetaient la télévision. Donc la radio, ça nous a bercés, nourris, construits d'une certaine manière. Alors, mes parents avaient des radios vraiment préférées. Ils écoutaient beaucoup France Musique, beaucoup France Inter. Alors tout ce qui était information, variété française, ils écoutaient Inter. Les dramatiques de minuit aussi. France Musique, alors c'était les émissions emblématiques, on y reviendra peut-être, mais enfin bon, le dimanche et le samedi, c'était vraiment France Musique, je vois mon père encore. Et ils écoutaient vraiment, c'est-à-dire que mon père ne lisait pas en écoutant la radio, il écoutait la radio. Et on avait aussi un peu Europe 1 pour l'info le matin, je me souviens. Enfin voilà, c'était à peu près ça, nos trois radios. Europe pour les jeux aussi, parce que moi j'adorais les jeux, enfin c'était une il faut bien l'avouer. J'allais quand
vous n'êtes pas parfait, Philippe Cassard, vous avez quelques vices.
Quand j'étais au conservatoire à Paris, j'allais assister aux jeux radiophoniques de Pierre Bellemare à Europe numéro 1. Je ne disais pas à mes parents, je me serais fait engueuler.
Donc il y avait un moment, vous le disiez, important dans la famille, et ce moment débutait par cela.
Au micro, Jean Fontaine, bonsoir.
Alors, ça n'était pas la voix de Jean Fontaine. qui était revenu de parmi les morts.
C'était l'émission du samedi soir à France Inter pendant, je ne sais pas combien, 30 ans. Ça, mes parents écoutaient beaucoup.
C'était, comment ça s'appelait déjà?
Oh là là, je saurais pas dire.
C'était des archives, en fait.
Non, ils présentaient pendant des années, je me souviens, c'était autour de Clara et Robert Schumann.
Oui.
Alors, les lettres, les correspondances, alors avec sa voix, c'était mélodramatique en diable. Ils disaient, aujourd'hui, je t'aime, chère Clara. Enfin, il prenait des voix, il y avait des trémolos, on aurait dit Pierre Blanchard, vous savez. Ah oui, c'était, il vivait intensément la relation Clara et Robert Schumann. Et on avait ce deuxième concerto de Brahms dans la version de Geza Handa que j'ai retrouvé là pour l'occasion. Alors c'était pas le même chef là, c'était Karajan et la version qu'on entendait chez Jean Fontaine, c'était avec Ferenc Frickshey. Mais on apprenait beaucoup de choses, mine de rien. Enfin, vous savez, c'est toute une époque, il faut pas l'idéaliser. Je pense que aujourd'hui, France Musique apprend aussi beaucoup de choses aux auditeurs. Oui. C'était pas mieux avant, c'était différent, avec d'autres voix, d'autres manières de parler dans le micro, de s'adresser à l'auditeur. Il y avait un côté plus, même à France Inter, puisque France Inter c'était Jean Fontaine, oui. Il y avait un côté plus distant, plus solennel, qui n'existe quand même, Dieu merci, plus du tout aujourd'hui, heureusement. Enfin, on va vers quelque chose de plus partageur, plus chaleureux, plus accessible, plus direct, plus franc, plus subjectif aussi. Enfin, ça fait partie maintenant de ce qui est la radio d'aujourd'hui, enfin de ce qu'elle doit être.
Alors justement, à propos de la radio telle qu'elle était autrefois, à nouveau un petit souvenir.
Samedi à 14h sur France Musique, depuis 1946, une controverse amicale oppose les plus célèbres critiques de disques, Panigel, Goléa, José Bruyère, Jacques Bourgeois, etc., dans des comparaisons passionnées sur la qualité des enregistrements des grands chefs-d'œuvre de la musique, tant classique que contemporaine. Micro et caméra a assisté pour vous à l'une de ces tribunes des critiques de disques.
Je vous propose d'entendre le premier enregistrement que nous ayons eu de la Camer Symphonie en micro-sillon. Car au dernier jour...
Alors là, je vois que Philippe Cassard, vous froncez le sourcil, on entendait les voix si connues de... C'était qui? Antoine Goléa,
Jacques Bourgeois,
Jean Roy.
Et Armand Panigel. Armand Panigel,
bonjour.
Vous ne les aimez pas?
Du tout. Alors ça, c'est le type même de l'émission qui a été totalement idéalisée, parce que d'abord elle a duré, je sais pas combien, un siècle ou à peu près, et dimanche après dimanche, pour moi c'était une torture d'écouter cette émission, mes parents l'écoutaient religieusement, on apprenait beaucoup de choses évidemment, les styles chaque semaine étaient très différents, on passait de la musique symphonique à de la musique vocale, puis des œuvres pour piano, bon, bien sûr qu'on apprenait des choses, mais alors il fallait les entendre les quatre là, c'était vraiment à qui dirait le plus de bêtises.
Bêtises ou de méchanceté?
Les deux, non mais les méchanceté, c'est de tout temps. Il faut, si on allait au Masque et la Plume à France Inter le dimanche soir, entre Jean-Louis Bory et Georges Charansol, il y avait aussi quelques prises de bec homériques. Mais enfin, il y avait un niveau d'intelligence et de culture qui n'était pas celui, je suis désolé de le dire, de la plupart des intervenants de la tribune des critiques de disques. Goléa était certes un type extrêmement cultivé, qui avait écrit des bouquins, certains d'ailleurs fort intéressants, sur Debussy notamment, un très joli essai sur Debussy. Mais ce qu'il a dit contre les baroqueux est juste scandaleux. Je veux dire, ils sont à passer
on
à côté
pas
de tellement de choses.
Dans l'air du temps, oui.
Avec son oreille absolue. Mais oui. Moi aussi, je l'ai l'oreille absolue. Enfin, je peux vous chanter un la comme ça tout de suite au débeauté.
Ça ne me... vous donne pas le droit d'émettre des jugements
sur
ce qui se
fait. Voilà, tous les Arnoncourt, les Léonard ont été éreintés dans cette tribune. Tous les baroqueux. Alors, ils préféraient Jean-François Paillard à Nicolaus Arnoncourt. Bon, ben voilà, l'histoire a choisi.
Oui.
Et puis les pianistes. Enfin, moi, je me souviens la manière dont ils ont Esquinté, assassiné, Xifra, Martha Argerich, même Samson François, enfin, tous les vrais tempéraments, les Horowitz, je me souviens, étaient traînés dans la boue par ces Olibrius. Enfin, moi, pour moi, c'est la radio, c'est une fausse subjectivité.
C'est petit club privé qui, finalement, n'y connaissait pas grand-chose.
Et puis, quand on sait quand même, enfin, je veux pas avoir des procès de leur descendance, enfin, je veux pas dire qu'ils étaient corrompus, mais enfin, on sait très bien que quand ils voulaient pistonner une marque de disque, un pianiste ou un musicien qui était dans leur petit papier, d'abord, les écoutes n'étaient pas à l'aveugle. contrairement à aujourd'hui. Donc, on savait pratiquement dès le début, c'était cousu de fil blanc. Non, moi, je garde des souvenirs vraiment horrifiés de cette émission, et c'est précisément pas du tout ce qu'il faut faire en matière de tribune de disques, de comparaison de disques. Enfin.
Et vous pensez, Philippe, que cette tribune a formaté des goûts, a influencé beaucoup les auditeurs de France Musique ?
Mais c'est, elle est légendaire, cette émission. Chaque fois qu'on rencontre un auditeur qui a, disons, franchi la soixantaine, pour ne pas dire la septantaine, c'est toujours « Ah, mais la tribune des critiques de disques, mais demandez à ma mère, hein. Panigel, Goléa, etc. » Alors, ils étaient très drôles, mais pour moi, pas drôles du tout.
Alors, ce rapport aux auditeurs, c'est essentiel, on le sentait dans vos émissions, hein, vous vous adressiez vraiment à un public, qu'il soit présent ou pas, et parfois, c'est l'occasion de belles rencontres. Alors, on reconnaissait la voix de Nathalie Dessay, votre piano, Philippe Cassard, dans une de ces mélodies de Debussy qui ont toute une histoire liée à France Musique.
Cette mélodie-là, Le matelot qui tombe à l'eau, elle est inédite parce que elle m'a été offerte, ainsi que quelques autres, inédites et non inédites, mais avec des versions un peu différentes, par une auditrice de Notes du Traducteur. Une auditrice qui est devenue, par la suite, spectatrice. Et une spectatrice à qui je rends hommage, parce que elle vient d'avoir 87 ans, Francine Perrault, et elle est venue à toutes les séances publiques de Notes du Traducteur à partir, je crois, de 2008. Enfin, elle n'en a pas manqué une seule. Et elle était liée par son grand-père à Debussy. En fait, son grand-père était un ami du couple Debussy, Gabriel Saint-René Taillandier. Et elle avait dans ses placards toutes ces mélodies qu'elle m'a offertes il y a quelques années. Et quand j'ai vu qu'elles étaient écrites, ces mélodies, pour une soprano coloratour, soprano léger, j'ai pensé à Nathalie Dessay, que je ne connaissais pas personnellement. Je lui ai écrit.
Vous êtes mariée depuis. On l'a vu en photo.
Ah, les fiançailles pour rire, absolument. Mais voilà, on peut vraiment dire que c'est grâce à Notes du Traducteur, par tout un enchaînement de circonstances et de situations, que la rencontre avec Nathalie Dessay et tout ce qui s'en est suivi
a pu se faire,
oui.
C'est joli, ces histoires. Oui. Il y en a une autre comme ça, un petit peu différente dans ses débuts, mais on écoute tout de suite. Philippe Cassard, cette magnifique barcarolle a une histoire. Nous l'entendons sous les doigts de Thierry de Brunhoff.
Oui.
Thierry de Brunhoff qui est moine maintenant.
Ah oui, qui a 81 ans passé.
81 ans passé,
et
oui.
Et qui est à Encalcate. Alors ça, c'est vraiment aussi grâce à Note du traducteur. Il se trouve que mon compagnon m'a rapporté un soir et m'a fait écouter à l'aveugle cette barcarolle de Chopin. Je savais donc pas du tout qui jouait. Et je n'avais jamais entendu Thierry de Brunhoff. Je savais qui il était et je savais qu'il était moine, mais je n'avais jamais entendu le son de son piano. J'ai été fasciné par ce que j'entendais, je découvrais un monde, une élégance, une aristocratie de la pensée musicale. Et il se trouve, le hasard faisait que 3 jours après, je présentais une émission de Note du traducteur en public avec la barcarolle de Chopin. Donc j'avais déjà fait le plan, etc. Je l'ai complètement changé. J'ai ouvert l'émission avec cette barcarolle en disant aux auditeurs et au public que c'était pour moi une grande découverte. J'avais écouté en plus tout le coffret, le double album des rarissimes, là où il y avait des Schumann merveilleux, sonates de Weber, etc. Et il se trouve qu'à cette émission, dans le public, il y avait Stéphane Goldet, notre penseur, voilà, qui avait été dans son adolescence élève de Thierry de Brunhoff, avait pris des cours avec lui et entretenait avec lui une correspondance très régulière. Donc elle m'a donné l'adresse à laquelle j'ai ensuite écrit, et puis de là est née cette amitié.
De fil en aiguille, oui.
Absolument, et c'est là aussi un moment très important dans ma vie de musicien, la rencontre avec Nathalie Dessay, on l'a dit, mais la rencontre avec Thierry, ça a été aussi faire ressurgir tout un monde dans lequel il y avait évidemment Alfred Cortot, et puis cet homme, enfin sa vie en deux, qui est maintenant une, je pense, parce que autant, je pense, quand il est arrivé à Encalcate, il a voulu enfouir d'une certaine manière ses 40 premières années vécues dans la musique et uniquement dans la musique, pour vivre pleinement cet appel qu'il avait reçu. Et puis là, maintenant, depuis qu'on se connaît, 7-8 ans, il y a, je dirais, la place pour la musique a été faite dans la vie de Thierry. Et non, c'est un homme absolument merveilleux, d'une classe incomparable. Et je suis tellement honoré de cette amitié.
Merci beaucoup Philippe Cassard. Ce qui est joli, c'est qu'en fait c'est une histoire de rencontre, beaucoup. C'est
absolument
l'histoire de la radio, que on a l'impression qu'on est loin de l'auditeur, mais finalement on est tout près.
Grâce à eux, il y a eu tellement de choses qui se sont passées.
Exactement. Et je voulais donc resignaler aux auditeurs que donc le Note du traducteur, le volume 2, vient donc de paraître. Il est consacré à Claude Debussy. Et en 6 disques, eh bien, on peut essayer de pénétrer dans le mystère de la musique de Claude Debussy grâce à vous. Merci Philippe.
Merci Dominique. Thank you.
Notre archive du jour, c'était un extrait de l'un de ses concerts mémorables contenu dans le coffret édité pour les 80 ans de l'Orchestre National de France. Sergiu Celibidache dirigeait dans la suite Roméo et Juliette de Prokofiev et nous écoutions La mort de Tybald. Bonjour Jérôme Sandlars.
Bonjour Dominique Boutel.
Jérôme, dans la séquence reportage de Fabrication Maison ce matin, vous nous proposez de revenir sur l'un des temps forts musicaux du week-end dernier à Radio France, le week-end à tout cœur.
En effet Dominique, deux journées pleinement consacrées à l'art choral et destinées au public qui était invité à venir découvrir une grande variété de répertoires, du XVIIIe siècle à la création contemporaine, de la musique européenne aux Amériques, à travers quatre concerts, trois ateliers et cinq formations musicales. Et tout cela, me direz-vous, sous la houlette de notre Sophie Janin, préférée, la directrice musicale du chœur et de la maîtrise de Radio France.
Et alors vous Jérôme, parmi cette offre foisonnante, vous avez choisi de nous plonger dans les coulisses du concert autour des percussions vocales dont les répétitions se déroulaient le samedi précédent. C'est bien cela ?
Tout à fait. Un concert qui mettait à l'honneur, une fois n'est pas coutume, deux compositrices de générations et d'approches musicales différentes, dont les œuvres sont destinées aux élèves de 4e et 3e et de CM1 et CM2 de la maîtrise de Radio France. Mais avant de nous replonger dans l'ambiance feutrée des répétitions de ce fameux concert, Sophie Janin nous présente en quelques mots le programme de ce fameux week-end choral.
Il est 16h07 et là on est dans les coulisses des différents studios de Radio France. Qu'est-ce qui se passe ce week-end, Sophie Janin, ici à Radio France ?
Eh bien, on a vraiment pris tous les studios disponibles ici. Et donc, on est juste à côté de l'auditorium où le chœur de jeune Simon Bolivar est en train de répéter pour leur concert de ce soir. À côté, au studio 104, il y a Morgane Jourdain, Émilie Fleury, la maîtrise de Radio France et la maîtrise de Notre-Dame, qui répètent également pour un concert de tout à l'heure. Et au studio 106, on a un atelier autour des percussions corporelles et vocales qui va démarrer dans quelques instants.
Et alors ce concert-là qui aura lieu à 17h30, donc dans environ une petite heure et demie, autour des percussions vocales, de quoi il s'agit ?
Il s'agit notamment de la pièce de Josephine Stevenson, « Ce n'était pas nous », qui est une commande de chez nous. Et il y aura également une création de Coralie Fayol, « Chat secret », qu'on avait en fait créé au mois de décembre dernier, mais qu'on redonne à cette occasion. Et puis il y aura aussi des pièces qui utilisent vraiment des percussions, que ce soit le corps ou même des papiers, des stylos, dans « The Exam » de Johan Bodin et Eriksson.
C'est quoi l'enjeu pour vous ce week-end intitulé « À tout cœur », Sophie Janin ?
Il s'agissait pour moi de pouvoir déjà accueillir plein de monde qui aime chanter, de créer de la musique ensemble, de chanter de la musique de nos jours et surtout de chanter ensemble les uns à côté des autres.
Comme on l'entend juste derrière nous, là.
Comme on l'entend de façon magnifique à côté de nous. Là, il y a vraiment tout public, hein, que ce soit les parents, les grands-parents, les enfants, les professionnels, les amateurs et tout le monde qui est en formation.
Il y a les enfants qui sont assis habillés en blanc, en chemise et pantalon noir. Dernière répétition avant le moment fatidique.
Les 3 A, attention à ce mesure 5, et I, il faut vraiment que ce soit I pour qu'il ressorte, sinon on n'entend pas le mi en fait. Et I, vraiment le plus I possible. Page 2, dessert d'or, essayez de que ce soit assez legato, de ne pas couper. Dessert d'or, plutôt que dessert d'or, parce qu'après on ne comprend pas le sens du texte.
C'est un peu mon geste.
Suivez votre chef. À chaque fois, pour qu'il y ait encore une fois cet élan. En fait, tout ce que j'ai écrit, c'est des reliefs. Donc, plus il y a les nuances, mieux c'est. Mais de manière générale, Morgane, est-ce que ça pourrait être un petit peu plus lent, ce premier mouvement?
Oui.
Ok, super. Merci.
Ok, merci de dessiner.
Joséphine Stephenson, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes une toute jeune compositrice de 25 ans. Qu'est-ce que ça vous fait là de voir les jeunes élèves de la maîtrise de Radio France en train de répéter votre pièce, donc qui s'intitule « Ce n'était pas nous ».
Ben écoutez, c'est très émouvant pour moi parce que en fait ma première pièce chorale en tout cas, a été chantée dans cette salle là au Studio 104 il y a presque 10 ans quand j'étais moi-même à la maîtrise de Radio France à la fin de ma deuxième année. Et du coup là d'avoir une entre guillemets une vraie œuvre qui soit créée dans cette salle 10 ans plus tard, c'est vraiment très émouvant.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 10 ans?
Bien, écoutez, j'ai fini donc mes études scolaires en France. Je suis ensuite partie étudier en Angleterre, où j'habite encore maintenant depuis 8 ans. J'ai fait une licence de musicologie, puis un master en composition à Londres. Et maintenant, ça fait presque 2 ans que je vis une vie de jeune freelance musician, à moitié compositrice et à moitié chanteuse, parce que je continue à chanter.
C'est quoi l'histoire de cette pièce, Ce n'était pas nous? Racontez-moi voilà. Un petit peu la genèse de cette œuvre.
Alors, l'histoire de Ce n'était pas nous, ben, ça a commencé tout simplement pour moi par un coup de fil de Morgane Jourdain, le chef de la maîtrise ce soir, qui m'a annoncé qu'ils aimeraient bien me commander une petite miniature pour la maîtrise pour cette année. Donc, j'avais vraiment carte blanche. Il fallait que ça dure 8 minutes, il fallait que ce soit à voix égale pour environ une trentaine d'enfants. Je voulais vraiment faire quelque chose qui puisse plaire aux ados, parce que moi, comme j'ai été à la maîtrise moi-même, je sais comment c'est de, en même temps, de plus vouloir être enfant, mais d'avoir des choses trop adultes qui nous dépassent. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi, et puis j'ai pensé assez rapidement à Antoine Thiollier, qui est un jeune auteur que j'admire beaucoup, qui est aussi un ami, avec qui je travaille d'ailleurs en parallèle sur un projet d'opéra. Et du coup, c'était l'occasion pour nous de tester un peu nos idées, de vouloir faire une pièce moderne avec un français contemporain qui soit mis en musique aussi de manière fraîche et jeune surtout. Je crois que je suis d'ailleurs la plus jeune personne qu'on ait commandée, en tout cas depuis quelques années, donc ça me fait énormément plaisir. Le texte est rempli de jeux de mots, de calembours, d'homonymies, de choses comme ça. Et à la surface, ça peut paraître assez abstrait, mais en fait, ça traite quand même de sujets qui ne sont pas anodins, d'histoire, de politique même. Enfin, c'est assez vague, du coup, ça laisse une grande place à l'interprétation, je pense, pour l'éditeur. La pièce est en 5 mouvements. Il y a 5 petits poèmes qui se font un peu, c'est un peu une forme miroir. Le premier et le 5e mouvement se font écho, ainsi que le 2 et le 4. Et après, il y a le mouvement central qui s'intitule « Ce n'était pas nous », qui est constitué de sons... Enfin, il n'y a pas de notes, en fait. C'est que des chuchotements, des cris, des trucs parlés. C'est très percussif. Ouais, c'était super. Je le referais volontiers.
Au départ, quand j'ai vu l'œuvre, je me suis dit, Oh, ça doit être plutôt facile, puisqu'il y a des blanches, des rondes, des croches, oh, ça devrait le faire. Mais petit à petit, en le travaillant, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, qu'il faut quand même mettre du sien, et qu'il faut surtout suivre le chef. Je m'appelle Anna Carolina Grabowski, je suis en 3e, au lycée Jean de la Fontaine. J'ai 15 ans, et je suis à la maîtrise de Radio France depuis que je suis en CM1. C'est très important dans cette œuvre de suivre le chef puisque, justement, comme les valeurs sont longues, comme les noires ou les blanches, il faut être très précis. Parce que des fois aussi, il y a des doubles croches et des demi-soupirs, des quarts de soupirs. Il faut suivre à la lettre le geste du chef.
Raconte-moi ce qui t'a plu, toi, dans cette expérience.
J'ai beaucoup aimé les œuvres de percussion corporelle, surtout, parce que ça m'a aidé à me lâcher, en fait. Ça m'a aidé à me lâcher corporellement, à me sentir bien, à me défouler en plein concert. Parce que d'habitude, on n'a pas le droit de faire ça. D'habitude, c'est très carré, il faut suivre le chef. Alors que cette fois-ci, en quelque sorte, j'étais le chef pour Tchak, l'œuvre Tchak. J'ai beaucoup aimé. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la première que j'ai interprétée avec mes amis, The Exam. C'était une pièce de rythme corporel où on était sur des tables avec des stylos et on devait faire interpréter un examen. On arrive, on est des adolescents, on marche comme ça, on n'a pas envie d'aller en cours, en examen, quoi. Et on commence à parler, puis on commence à écrire et là, tout commence. Et on commence à faire des rythmes avec nos stylos, puis tout d'un coup, on commence à s'affoler, à on dit « Oh non, j'ai raté !»« Oh oui, j'ai réussi !» Et puis ça devient n'importe quoi.
Yes !
Coralie Fayol, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a deux femmes à l'honneur dans ce concert qui se déroule cet après-midi à Radio France. Donc vous êtes l'auteur, la compositrice d'une œuvre qui s'intitule « Chat secret ».
C'est un conte donc, que nous avons inventé avec mon ami Jean-François Meiner. On est parti d'un garçon qui ne pouvait plus parler ni chanter. Tout le monde lui parle parce que comme il ne parle pas... Il ne divulgue pas les secrets de ses camarades. Il rencontre un chat qui, finalement, lui, il va pouvoir se décharger de tout ce qu'il a dans la tête sur le chat, qui, lui, va grossir. Et enfin, la tête du garçon va diminuer. Et finalement, le chat, peut-être va dire les secrets des enfants, on ne sait pas.
Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en valeur dans cette œuvre-là, alors ?
Alors là, c'était une commande pour les petits de la maîtrise. Donc, du coup, c'est assez modeste comme écriture. Je parle en termes de difficulté. Pour certains, c'était leur premier concert. Et j'ai privilégié l'unisson, en fait, avec très peu de deux voix, avec des indications différentes, c'est-à-dire quand même des choses plus liées, des choses plus piquées, enfin des choses un peu techniques. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le lien avec l'histoire, justement, que ça puisse passer d'une chanson au texte et qu'ils puissent s'approprier bien ces œuvres-là, quoi. Je mets en avant vraiment beaucoup le chœur et le piano accompagne. J'aime bien que les enfants soient vraiment à découvert. Et puis, voilà, j'ai suivi les répétitions. Moi, j'adore ça, de voir justement les choses qui prennent forme. Et ça, c'est magique.
Le public ne doit pas être complice de notre travail. Le public doit entendre et voir le résultat de notre travail. C'est notre confidence à nous, tout ce qui s'est passé avant. Mais là, on est dans la révélation du travail. Les gens ne doivent pas le voir. Ils doivent profiter. Texte.
C'est
un chat qui crie. C'est le chant en fait qui crie. Donc kiffe le on.
Vous avez l'habitude de travailler pour des chœurs d'enfants ?
Oui, oui, j'ai l'habitude depuis longtemps et j'aime beaucoup la fraîcheur et la fragilité des voix d'enfants. Donc à chaque fois, c'est un plaisir de les entendre s'approprier une œuvre et puis après, il y a une énergie et une... Ouais, c'est magique.
On y va parce que ça va commencer, là.
Merci.
Merci. Et alors là, le studio 104 de la Maison de la Radio est quasi plein. Et le public attend le début du concert.
Merci Jérôme Sandelaars. Alors la plupart des concerts enregistrés pendant ce week-end à tout cœur seront à retrouver évidemment dans l'émission Les Concerts de l'après-midi sur France Musique que je présente.
Merci Dominique Boutel, à bientôt.
À bientôt. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique.
Jeudi prochain, deux concerts programmés de la saison des concerts de Radio France se déroulent en même temps. L'un à 20h au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre National de France et l'autre à 20h30 à la Philharmonie avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ça va être difficile de choisir.
Oui, et puis en plus, ce sont les deux directeurs musicaux qui officient, Mico Franck avec l'Orchestre Philharmonique et puis Daniel Egatti avec le National. Et puis des solistes superbes, Sol Gabetta au violoncelle avec le Philharmonique, la soprano Camilla Tilling avec l'Orchestre National. Bon, pourtant, sauf si vous êtes doté du don d'ubiquité, il vous faudra bien choisir. Alors, votre choix pourra se porter sur le quartier. Heureusement, les deux salles sont assez éloignées l'une de l'autre. Paris-Est, la Philharmonie vous séduira. Paris-Ouest, optez plutôt pour le Théâtre des Champs-Élysées. À l'Ouest, donc, ça sera l'Autriche. Et oui, avec Mozart, Mahler et Berg.
Love it!
Magnifique voix de René Fleming, Claudio Abbado et l'Orchestre Philharmonique de Berlin qui interprétaient cette ode à l'amour passionné d'Alban Berg, extrait des Sept Lieders de jeunesse.
Alors pourquoi faut-il aller au théâtre des Champs-Élysées jeudi soir ? Eh bien, parce que vous allez y entendre cette patte de Berg, si romantique, débordante.
Oui, ça c'est tentant.
C'est le romantisme de l'adolescence. Berg n'a pas 20 ans, il vient de découvrir 3 ans plus tôt, tout seul, en secret, la composition. Il est enflammé, et d'ailleurs, il écrit entre ses 15 ans et ses 18 ans, plus que dans toute sa vie entière. Et voilà, la musique, c'est pour lui comme un langage des oiseaux, une sorte de langage amoureux. C'est un adolescent romantique, Berg. Il s'inspire de tout ce qui fait la richesse de Vienne à ce moment-là. Et à Vienne, à ce moment-là, la grande figure, c'est Mahler. Les mêmes interprètes, René Fleming, Claudio Abbado et l'Orchestre Philharmonique de Berlin. La 4e symphonie de Mahler, c'est la 2e bonne raison pour laquelle vous devez aller au théâtre des Champs-Élysées jeudi soir écouter l'Orchestre National.
Ou France Musique.
Absolument. Côté Est, maintenant, c'est la Philharmonie de Paris et c'est l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Les raisons d'y aller sont aussi indiscutables. Il y en a vraiment une qui me frappe, qui tient au programme, c'est d'entendre dans la même soirée Debussy et Sibelius. C'est presque une histoire de météo. Il y a un lien nuageux, parfois brumeux, flottant, insaisissable, qui existe entre Debussy et Sibelius. Tous les deux, à leur manière, nous font dériver sur les eaux. Debussy, c'est par la clarté, par la transparence. Et Sibelius, c'est parce que c'est une musique qui avance sans cesse, qui ne se répète jamais. Sibelius. Le début de la 5e symphonie de Sibelius et donc tout de suite, sans transition, Debussy, le prélude à l'après-midi d'un faune. Thank you.
C'était donc un extrait du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé justement par Mikko Franck.
Et donc, voilà, je vous laisse dans l'embarras pour jeudi soir. Ne comptez pas sur moi pour vous aider à choisir entre ces deux concerts de l'Orchestre National de France et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Mais tout de même, un conseil, allez-y.
Ou écoutez France Musique, où les deux seront retransmis. Agenda. Les vacances de Pâques commencent en région parisienne et la Maison de la Radio propose une série d'ateliers pour les plus jeunes. Créer une fiction radiophonique ou sa propre playlist, devenir un apprenti journaliste avec les ateliers France Info. Voici quelques-unes des propositions qui sont faites aux plus jeunes. Pour tout savoir, un site maisondelaradio.fr. Lundi soir, venez assister à l'enregistrement public de l'émission Génération Jeunes Interprètes de Gaëlle Le Gallic. Il y aura du monde sur le plateau. La jeune violoniste et pianiste Masha Kanza avec Celia Onetto Ben Saïd au piano. Un trio original, le trio Fratresse, violon, saxophone et piano. Et pour couronner le tout, la jeune prodige de la trompette, Lucienne Renaudin-Vary, révélation instrumentale victoire de la musique de cette année. C'est au studio 106 à 19h. Jeudi, vous aurez peut-être la chance de participer à l'enregistrement de la Tribune des critiques de disques. Jérémy Rousseau a choisi de vous faire comparer plusieurs versions des si belles bacchanas brasileiras de Villa-Lobos. Rendez-vous à 19h au studio 107. Et enfin, samedi prochain à 11h, concert en famille pour une promenade au bord de l'eau. Sir Roger Norrington emmène les enfants et leurs parents sur les rives du Rhin avec la 3e symphonie de Robert Schumann. C'est à l'auditorium.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors on s'est bien amusé la semaine dernière, est-ce que vous allez être plus sérieux aujourd'hui ?
Un petit peu plus sérieux, c'est pas tout à fait le même genre de fantaisie, disons, que nous allons aborder. Parce qu'il n'y avait pas que des chefs-d'œuvre non plus diffusés par la radio et par le disque.
C'était des chefs-d'œuvre la semaine dernière ?
Bien entendu, enfin, je ne vois même pas de quoi vous parlez. Il n'y avait pas une faute dans ce programme. Oui, il y avait des arrangements, il y avait des choses qui étaient des mélodies qui plaisaient. Alors vous me direz, l'arrangement, ça a été tout le temps. Hein. Les grands compositeurs se sont livrés à un pillage en règle des œuvres de leurs copains.
C'est ou pas pillage, un pillage.
C'est des hommages, etc.
Bien sûr.
Mais là, il y a une façon de rendre la chose plus populaire dans le sens chanson. Parce que vous savez, la chanson qui est une invention en gros du 19e siècle et qui devient un art à part, qui va devenir aussi un des arts majeurs de la radio, eh bien peut s'approprier de temps en temps des thèmes classiques, ou presque. Et j'en veux pour preuve les millions d'Arlequins de Drigo, qui est un air très très célèbre, une petite sérénade très très célèbre, qui a été jouée par l'immense violoniste Raphaël Kubelik, et qui ici est jouée par Rod, violoniste tzigane, avec son orchestre. Donc vous voyez, il y a aussi là des transgenres, pas tout à fait comme la semaine dernière, mais transgenres quand même.
Disque pâté, 1934.
Thank you.
Belle musique.
On n'oublie pas qu'on est dans une matinale et qu'on se réveille en douceur.
C'est vrai. Les Mignons d'Arlequin de Drigo par le célèbre violoniste Rod, qui joue, moi je trouve bien, enfin le son de son violon est magnifique.
Oui, oui, d'ailleurs il a été mis en scène dans un film qui racontait l'histoire des Strauss à Vienne, un film des années 1930, c'est absolument extraordinaire, on le voit, la mèche balayant son front ombrageux, c'est très beau.
Donc c'est un disque pâté 1934, Paris.
Paris, exactement, parce que Paris est encore une fois le centre du monde pour toutes ces fantaisies. Curieusement, il y a un appétit extraordinaire. On vient à Paris pour rigoler pendant l'entre-deux-guerres. Ça s'appelle pas les années folles pour rien. Alors, si vous voulez, nous allons entendre une chose, alors qui, moi, peut-être ai-je très mauvais goût, me fait hurler de rire.
C'est vrai.
Et pourtant, je peux vous garantir qu'au départ, c'est pas fait pour hurler de rire.
Ah bon?
Ah, Dominique, pourquoi mens-tu? Ah, pourquoi manques-tu est un tango extraordinaire chanté par Georgel, un chanteur qui date de la belle époque et qui a été mis en scène par Mayol, et plus si affinité, et qui en plus lui-même a aidé Maurice Chevalier au début de sa carrière. Donc c'est un personnage un peu en second plan, mais un de ces personnages phares du musical du Paris de la belle époque et des années folles, qui ici nous chante ce tango terrible, sortez vos mouchoirs, soit pour rire, soit pour pleurer.
Pourquoi mens-tu? Pourquoi? Pourquoi n'oses-tu pas me dire le mot que cache ton sourire? Je le devine malgré toi, dans ton baiser et dans ton étreinte, je sens la peur et la contrainte. Dans tes yeux, je lis une crainte. Pourquoi mens-tu? Pourquoi? Tu m'appartiens sincèrement. Tu me le jures à l'instant même. Mais si tu me dis que tu m'aimes, tout en toi me dit que tu mens. Qu'importe pour toi mon amour, dont cruellement tu t'amuses, mais ne crois pas que tu m'abuses. Bah, je devais savoir un jour pourquoi mens-tu, pourquoi n'oses-tu pas me dire le mot que cache ton sourire? Je le devine malgré toi, dans ton baiser, dans ton étreinte, je sens la peur et la contrainte. Dans tes yeux, je lis une crainte. Pourquoi mens-tu? Pourquoi? Nous allons changer de chemin. Tu pourras mieux vivre ta vie. Le destin veut que l'on oublie. Notre soir fut sans lendemain. Ne pleure pas, pourquoi mentir? Tes larmes ne sont pas sincères. Crois-tu qu'il est bien nécessaire de me jouer le repentir? Pourquoi mens-tu?
Ah, pourquoi mens-tu? C'est un tango. Je vois pas trop matière à rire dans cette histoire. C'est très tragique.
C'est carrément l'archétype du tango qu'on écoutait dans les années 30. Alors je vais lancer un appel aux auditeurs. Si certains d'entre vous peuvent me répondre pourquoi Dominique me ment, eh bien n'hésitez pas à lui adresser des courriers.
Vous n'avez pas une question plus intéressante, Jean-Yves Pat? Alors ensuite, on va finir dans la gaieté.
On va finir dans la gaieté avec une fantaisiste qui va traverser le XXe siècle. C'est Mireille, évidemment. Mmh. Et alors Mireille, elle aime beaucoup les supports nouveaux. Elle aime beaucoup le phonographe, elle aime beaucoup le disque, elle aime beaucoup la radio. C'est une femme moderne. Ensuite, vous le savez, elle adoptera la télévision et elle aimera beaucoup le théâtre tout au long de sa vie. C'est quelque chose de très important. Alors elle a écrit Un mois de vacances, qui au départ était une fantaisie phonographique, qui était destinée aussi à la radio, donc on est en plein dans notre thème. Et parmi les chansons, il y a Le jardinier qui boite. Excusez du peu, elle a écrit avec Jean Noin, qui était quand même un des plus grands paroliers de cette époque-là. Et excusez du peu encore, elle est entourée de Pils Tabet, qui sont des grands duettistes des années 30, Jean Sablon et sa voix de velours, et bien entendu elle-même avec sa petite voix au perché, qui nous raconte cette histoire dramatique de jardinier qui boit. Ou qui boite, peut-être les deux.
C'est un jardinier qui boite.
Qui boite et qui boit.
C'est un jardinier qui boite. Qui boite, qui boite et qui boit. Dip, dip. Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boit. Dip, dip.
Mais quoi qu'il en soit,
toutes les fois qu'on le voit,
on le voit qui boit.
On le voit qui boite.
Du premier du mois au dernier du mois.
C'est fou tout ce qu'il boit.
Ah, c'est fou comme il boite, car pour oublier qu'il boite, ce jardinier boit, oui. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit.
Tout au bout du parc ombragé,
j'ai voulu voir le potager, rempli de choses à manger.
Tout tenté, j'ai voulu goûter
les bons fruits que le soleil cuit.
Soudain, près d'un gros aiguier, j'aperçus le jardinier. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boit. Mais quoi qu'il en soit, toutes les fois qu'on le voit,
on le voit qui boit, on le voit qui boite.
Du premier du mois au dernier du mois.
C'est fou ce qu'il boit, c'est fou ce qu'il boit.
Car oubliez qu'il boite ce jardinier boit. Oui, c'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Moi j'ai vu les champs et les prés.
Moi j'ai vu les vallons dorés. Moi j'ai couru respirer.
Moi j'ai vu les fleurs du pays.
Moi j'ai fait le tour de la basse-cour.
Moi j'ai vu le garder le fermier.
Moi j'ai vu le jardinier. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit.
Popo Padou.
Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boit.
Popo Padou.
Et moi, pas qu'on finance pas, aussitôt que les gens le voient, on s'aperçoit que c'est un roi et on remarque comme il boit du premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois.
Oh, mes amis, c'est fou ce que cet homme boit.
Oh, ma chère, si cet homme boit, c'est parce qu'il boite. Car pour oublier qu'il boite, ce jardinier boit, oui. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit.
Qui boite et qui boit.
C'est joliment chanté, moi, je trouve.
Ah ben, c'est plein de charme. Ouais, c'est plein de
fraîcheur. C'est dans la veine des frères Jacques, des...
Complètement, ça annonce, et c'est drôle, autant la semaine dernière on a fermé les années folles, autant cette année on ouvre toute la seconde partie du XXe siècle.
Alors c'était donc Le jardinier qui boite, qui est extrait d'Un mois de vacances, une suite phonographique que l'on doit à Mireille. Et alors là, il y avait évidemment toute une kyrielle d'artistes fameux.
Ah ben, c'était les plus grands fantaisistes de l'époque, et avec Georges Tabet qui jouait du piano Pleyel.
Et c'est un disque Columbia, Paris, 1932.
Alors, une petite annonce. Si vous vous rendez à Orléans, vous pourrez entendre le chœur russe Bortnianski, ce qui me permet en même temps d'annoncer que la semaine prochaine, nous intéresserons aux Russes.
C'est quand le chœur Bortnianski?
C'est le 17 avril à 16h à l'église Saint-Pierre du Martrol.
Merci Jean-Yves Patte.
À bientôt.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique, dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Jean-Philippe de Frocourt. « Tout le monde connaît, ou presque, le tableau peint par Corot représentant l'église de Maricelle, près de Beauvais. Cette belle église m'a été très familière pour une toute autre raison. À l'heure de la sortie du lycée Félix Faure à Beauvais, un jour de 1969, alors que j'arrivais du côté de la cour des petits, je fus abordée par un jeune homme qui lui venait du côté de la cour des grands. Le plus naturellement du monde, il se mit à m'expliquer qu'il avait appris à jouer de l'orgue depuis plusieurs années auprès de l'organiste Jean-Jacques Grunenwald, ce qui n'était pas rien, qu'il avait entendu parler de moi par la professeure de musique du lycée. Je faisais des merveilles avec ma flûte à bec baroque en bois, venue du pays de Bach, comme toutes celles de mes camarades de classe, commande spéciale de ladite professeure, et qu'il était prêt, si cela me disait, à m'apprendre à jouer de ce monumental instrument, ayant lui-même à sa disposition l'orgue de tribune de l'église de Maricelle. Comment refuser une telle proposition, même quand on a 12 ans, d'autant que mes parents ne désapprouvèrent pas. C'est ainsi qu'une fois par semaine, le samedi après-midi, après avoir déchiffré parfois péniblement des partitions pour deux mains sur l'harmonium situé à l'entrée du chœur, nous empruntions le petit escalier de bois vermoulu qui conduisait à la tribune de l'orgue. La première fois que je montais, j'eus l'impression de pénétrer dans un monde étrange, nouveau, interdit même. Puis assis devant les deux claviers, face au sommier et au tuyau de montre, l'impression était tout autre. Un monde infini s'ouvrait devant moi, avec toutes ses touches, le pédalier et ses tirettes permettant d'accéder aux différents jeux. L'orgue de Maricelle en possède 15, mais un plus particulièrement me fascinait, le plein jeu du grand orgue. Car après des exercices de déchiffrage et d'approfondissement de morceaux, notamment de Bach, dont la célébrissime toccata en ré mineur, la passacaille en ut mineur, venait le moment de l'improvisation. Créer des sonorités merveilleuses, en plaquant des accords sur les claviers de l'orgue, en utilisant précisément le plein jeu, remplir la nef et le chœur de l'église de centaines de notes, simplement avec les deux mains et les deux pieds sur le pédalier, c'est pour moi quelque chose d'inoubliable qu'on ne réalise pas évidemment du jour au lendemain. Mais je crois au dire de mon professeur que j'avais quelques facilités en ce domaine. Puis un jour, la vie a fait que nos chemins se sont séparés. Je ne suis plus jamais remontée à la tribune d'un orgue. Mon instrument de prédilection, c'est devenu la flûte traversière. Pour illustrer le souvenir musical de Jean-Philippe de Frocourt, nous avons écouté Una toccata per l'elevazione de Girolamo Frescobaldi, joué par l'organiste Jean-Jacques Grunenwald, qu'il citait. Cette rubrique se nourrit de vos souvenirs, alors n'hésitez pas à prendre votre plus belle plume et à nous envoyer l'un de vos grands moments avec la musique. Je me ferai un plaisir de vous lire à l'antenne. Question de cœur avec Sophie Janin. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour.
Tout ce mois-ci, Sophie, nous évoquons un peu des compositeurs qui ont écrit ou peu ou beaucoup pour chœur. Aujourd'hui, vous aviez envie de parler de Johannes Brahms. Il a beaucoup produit d'œuvres chorales. C'est un peu un grand maître du genre. Mais il faut dire un peu, tous ces Allemands viennois avaient l'habitude de chanter en chœur.
C'est vrai. Et je pense Brahms en particulier avait un savoir-faire pour l'écriture chorale qui est absolument exceptionnel. Et surtout, il écrit pour des formats très très différent, c'est-à-dire que on trouve des grands opus avec orchestre et large chœur, on trouve du chœur a cappella sur des textes de Goethe, mais aussi des petits Volkslieds qui l'harmonisent, on trouve des pièces sacrées, des pièces pour voix égale, il y a vraiment tous les formats possibles, et il y a aussi une liaison très importante par rapport à une musique ancienne. On voit que c'est un compositeur qui connaissait fort bien le répertoire baroque, par exemple, qui n'était pas du tout à la mode pendant son temps.
Mmh. Le répertoire baroque européen,
oui.
Aussi bien italien qu'anglais.
Tout à fait. Alors, je pense qu'on sait maintenant que dans la bibliothèque de Johannes Brahms, il y avait par exemple toutes les œuvres de Gabrielli. Il avait ça, il est très conscient de cet univers. Et puis, il y a aussi, pour moi, une couleur dans la texture et la texture de Brahms qui est extrêmement réjouissant aussi à chanter. C'est-à-dire que c'est une texture, sa musique chorale, qui est aussi fragile, aussi raffinée que sa musique de chambre. C'est un son qu'il faut produire, qu'il soit nourri, qu'il soit soutenu, qu'il soit long, mais il ne faut pas mettre de pression sur la note. La polyphonie est fragile, donc il faut vraiment traiter tous ces chœurs a cappella, et même dans les grandes œuvres avec orchestre, il faut traiter la polyphonie avec une vigilance extrême. Le contrepoint aussi est délicat, et il y a aussi ce point chez Brahms que j'adore, c'est que parfois il prend aussi des poèmes, on va dire, un petit peu moins aboutis ou subtils, et il les anoblit grâce à sa musique. Et on le trouve entre autres dans quelques textes, dans son opus 104 par exemple, qui est formidable. Et on est là dans un ton, dans une mélancolie, dans une tristesse, dans une joie, avec quand même une petite larme au coin de l'œil. Enfin, il arrive à passer des émotions à plusieurs dimensions grâce à sa musique.
C'est la Capella Amsterdam dirigée par Daniel Reus qui était l'interprète de cet opus 104 de Brahms qu'évoquait Sophie Janin. Et enfin ce matin, c'est un disque que vous pouvez gagner grâce à Fabrication Maison. Et justement, c'est le disque que nous évoquions avec Philippe Cassard tout à l'heure, le deuxième volume de Ses notes du traducteur, consacré tout entier à Debussy et à sa musique pour piano. Au fil de 10 émissions, Philippe Cassard nous explique comment jouer, mais aussi comment entendre Claude Debussy. Pour gagner ce coffret, c'est simple, il vous suffit de nous écrire en allant sur la page de l'émission Fabrication Maison sur francemusique.fr. N'oubliez pas votre adresse. Voilà, c'est la fin de notre émission réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Benoît Latil, de Cécile Gissot et d'Emmanuel Dupuis. À très vite!